francophone en compétition.
10 groupes en live sur la scène du Studio 105.
La Femme,
Gaëlle Faye,
Granville,
Lescope,
Lisa Leblanc,
Messia,
Sophie Morin,
Ottilie,
Roby
et 1995.
Tout ça ne m'attend pas. Non, 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 tout ça ne m'attend pas.
Un jury composé d'auditeurs et de programmateurs de France Inter, ainsi que de lecteurs et de journalistes de Télérama, les départageront.
Pour assister à cette soirée,
mercredi prochain à 21h,
à la maison de Radio France,
réservez dès maintenant vos places sur franceinter.fr. France Inter,
la voix est libre. Ils sont dans les starting blocks là-bas, si j'y suis, l'équipe de Daniel Mermet, c'est parti, pip.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs de là-bas, si j'y suis. Beaucoup de choses à dire à propos de Brignoles. Tout d'abord, petit décryptage. Alors, en 2011, pour le FN, on a 2757 voix. En 2012, pour le FN à Brignoles, 2734 voix. En 2013, pour le FN, 2718 voix. Donc, le nombre de voix est en diminution, pas en augmentation, comme on peut le dire partout. C'est une manipulation. Ce ne sont pas les voix du FN qui ont augmenté, ce sont les Français qui n'en ont plus rien à faire. Et c'est un échec cuisant de la politique de droite comme de gauche, et les gens en ont marre d'être balancés un coup à droite, un coup à gauche. Donc on reste chez soi et on ne va pas voter, c'est tout simple. Salut Daniel, salut les auditeurs, au revoir.
Nicolas Sarkozy s'est félicité d'avoir été innocenté par la justice, suivi en cela par tous ses amis. Mais Nicolas Sarkozy, qui est avocat également, devrait savoir qu'il n'a pas été innocenté par la justice. L'instruction a déclaré qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre ce dossier dans l'affaire Bettencourt. Pour une raison très simple, c'est que certains des faits dans ce dossier sont prescrits, sont couverts par la prescription. L'instruction ne déclare jamais qui que ce soit, ni innocent, ni coupable, ça n'est pas son rôle. L'instruction, son rôle, c'est simplement de préparer le dossier pour que la Cour, après, puisse statuer. C'est la Cour qui définit si quelqu'un est innocent ou coupable, pas l'instruction. Voilà, Monsieur Sarkozy, vous n'avez pas été déclaré innocent. Et il reste encore quelques dossiers à voir.
Bonjour, c'est Claire Delin. J'appelle en réaction un petit peu au propos de Daniel sur le silence sur le répondeur après votre émission sur les Roms, les Tziganes. Voilà, mais je voulais vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne réagit pas qu'on ne ressent pas, et le fait d'appeler un répondeur, de descendre dans la rue, n'exonère en rien le... Et d'autre part, je trouve qu'il est toujours très très dangereux de s'attribuer le monopole du bon ressenti, du bon sentiment. Ben, merci pour cette émission qui était vraiment bien. À bientôt.
Concernant le camp de Montreuil-Bellay, j'avais vu un reportage sur la chaîne LCP il y a plus d'un an. J'ai recherché sur Internet et j'ai vu qu'il repassait sur YouTube. Tapez Montreuil-Bellay, un camp tzigane oublié. On y voit les survivants, dont un petit vieux, malicieux, les yeux pétillants. Il avait réussi à s'échapper du camp et trouver le moyen de donner de la nourriture à travers les barbelés. Et bravo pour le travail de l'instit Jacques Sigaud. Une petite histoire pour finir en souriant. Un journaliste demandait au Gypsy King qu'est-ce qui avait changé depuis qu'ils étaient célèbres. Et il y en a un qui a répondu « Avant, on avait la police derrière, maintenant on l'a devant. Et comme dit Yvan Le Belloc, les Roms, on doit les rencontrer, ne serait-ce parce qu'ils sont différents. » Au revoir.
Bonjour à tous les Sud-Seine-et-Marnais. Le repère de là-bas, si j'y suis, de Tousson, le village au milieu des betteraves du Gâtinais, vous invite ce jeudi 10 octobre à 20h à la reprise des soirées citoyennes et poésie, cette fois autour de l'œuvre de Nazim Hikmet, lue et commentée par le poète Reza Iwa. Poésie et lutte citoyenne sont au cœur de cette première soirée, au café du village La Tête des Trains, place de l'église à Tousson. Bienvenue à tous les AMG du coin.
Bonjour, merci pour votre émission et aujourd'hui vous êtes mon seul espoir de soutien. Ma mère a la maladie d'Alzheimer, je m'occupe d'elle pour qu'elle puisse rester chez elle. Elle allait à un accueil de jour à 40 km trois fois par semaine. La sécurité sociale prenait en charge le transport et puis maintenant elle refuse la prise en charge et elle demande des arriérés aux transporteurs qui se retournent contre nous pour nous réclamer plus de 3000 euros. Et voilà, on est dans une zone muette, paraît-il. Donc il n'y a pas d'autres accueils de jour plus près. Il n'y a pas de solution parce que l'hôpital organise un transport que dans un rayon de 15 km. Et toutes mes demandes et mes courriers à la Sécurité sociale, y compris au directeur de la CPAM d'Avignon, sont restés sans réponse depuis le 19 août. Voilà, je ne sais plus quoi faire face à cette situation. S'il y a d'autres personnes qui connaissent la même chose, voilà, je suis Catherine Serre au 06. 26 06 28 01. Merci, au revoir.
Et voilà, si vous voulez joindre Catherine, je répète le numéro qu'elle a donné, 06 26 06 28 01, si vous avez des, je sais pas, des conseils, un coup de main, ou simplement parler dans ce pays où le désert avance. Alors, ce sera combien? 250? 300? Je parle des cercueils qu'il faut ce coup-là pour Lampedusa. 250? 300? Bon, voilà. 20 000 sont morts en mer depuis le milieu des années 90. Alors à chaque fois, on entend les larmes de... responsables politiques. Là, c'est les larmes de Monsieur Barroso qui tombent sur ses cercueils. On s'indigne, on déplore, on dénonce les passeurs et les mafias, et puis le manque de moyens aux frontières pour protéger notre Europe de ces envahisseurs. Il faut des murs plus hauts, des barbelés mieux électrifiés, des caméras partout, branchées jour et nuit, faire de chaque Européen un gardien de l'Europe, développer une sorte de grande autodéfense numérique de notre Europe, multiplier les patrouilles, les mines, les avions de chasse, les drones. Ou alors quoi? Ou alors quoi? C'est ça? Ou alors, on se pose des questions sur ces migrants. On se dit, mais que veulent-ils ces gens-là? Qui sont-ils? Que fuient-ils? Que fuyaient ces noyés de Lampedusa? Si vous voulez devenir citoyen italien, vous pouvez, si vous êtes érythréen ou somalien, mais à condition d'être un cadavre. Les autorités italiennes ont accordé la nationalité italienne aux noyés. Voilà, c'est à cette condition que vous pouvez devenir un citoyen italien, donc un Européen. Mais à cette condition seulement, si vous voulez aller vite. Oui, il faudrait aller chercher les causes de tout ça. Qu'est-ce qui fait courir ces gens-là? Qu'est-ce qui fait... D'où viennent-ils? Que fuient-ils? Alors on va dire la misère, oui, mais c'est pourquoi la misère? La dictature, les dictatures, oui, mais pourquoi les dictatures? Alors ça nous entraînerait très loin. Ça nous entraînerait à voir les politiques imposées à ces pays par les fonds monétaires internationaux et autres banques mondiales, à revenir à l'histoire de la colonisation. Oh là là, comme c'est compliqué, où allez-vous? Eh ben oui, mais si on veut agir, c'est une vaste affaire, une vaste, très vaste affaire politique. Et à chaque fois, on arrive là, devant les cercueils, sans savoir quoi faire, se sentant impuissant. Aujourd'hui, donc, on revient sur ce sujet, un tour par Lampedusa, où nous étions allés il y a quelque temps déjà. Et puis, on va retourner en Libye, à Gariane, au sud de Tripoli, exactement dans le centre de Bourchada, où nous avions rencontré ces migrants, précisément, qui étaient là, véritablement enfermés, emprisonnés, dans l'espoir de pouvoir sortir de cette Libye pour aller dans l'un de ces bateaux, pour aller peut-être un jour jusqu'à Lampedusa et de là vivre enfin. C'est notre sujet du jour, Lampedusa. Combien de cercueils pour cette fois? Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bon, c'est pour demain, parce que demain, on est le 9. Et lundi 9 octobre 1978, Jacques Brel est parti. Ça fait 35 ans. Putain, comme le temps passe vite. Ciao.
Oui, Daniel, bonjour. C'est Gildas de Gisors. Je tiens à signaler que les grévistes de la faim à Peugeot, Poissy, sont toujours là, mais personne n'en parle. Salut, bonne journée.
Bonjour Daniel, bonjour l'équipe et tous les AMG. Le prochain café repère du Cellier Bokeo dans les Côtes d'Armor aura lieu ce mercredi. Le thème sera le regard des autres. Donc, rendez-vous à 19h30 ce mercredi au Cellier de Bokeo. Merci.
J'ai appelé pour dire que c'est bien de passer la brosse à reluire au monde diplo, c'est bien de les aider, tout ça et tout. Il y a un journal qui est vachement bien aussi, ça s'appelle Fakir. Et ce mois-ci, c'est la laborieuse bataille des idées. Il y a Karl, Lordon, Quince, Crèche, Choix, Briquement, enfin tout ça, il est vachement bien. Et ce serait bien qu'une fois par mois, on organise un truc avec Fakir quand même. Non ? Genre aider un petit journal, quoi. Bon, ben, je vous aime bien quand même. Hein. Et à bientôt, salut.
Bonjour Daniel. Ce matin, j'ai entendu un sondage. 80% des personnes interrogées soutiennent les magasins qui ouvrent le dimanche. Pauvre France, pauvre France. Eh bien, ces entreprises richissimes vont bien rigoler. Je voudrais m'adresser aux personnes interrogées. Hein. Je voudrais leur dire qu'elles se battent pour augmenter les salaires et non pas pour être esclaves de ces entreprises. Qu'elles ne s'inquiètent pas de toute façon. Bientôt, le dimanche sera un jour comme les autres. Il n'y aura plus d'indemnités supplémentaires. Et surtout, ce dimanche sera exclu du volontariat. Là, elles seront obligées de travailler le dimanche. Ce n'est pas la direction qu'il faut prendre. Et puis, il ne faut pas rejeter les syndicats qui se battent pour ça. Hein. Il ne faut pas dire, heureusement que je ne suis pas syndiquée comme certaines personnes. Non, les syndicats ont raison. C'est la bonne direction qu'il faut prendre. Je peux en parler, j'ai 80 balais, alors je peux dire comment ça s'est passé. J'ai connu les 15 jours de congés payés, les 50 heures obligatoires par semaine non payées en heures supplémentaires. Alors il faut vraiment penser aux anciens qui se sont battus. Surtout, réfléchissez à la bonne direction. Parce que ne soyez pas esclaves de ces entreprises. Même si vous avez besoin d'argent, bien sûr que c'est difficile. Allez, au revoir, bonne journée.
Alors aujourd'hui, nous allons étudier la condition féminine chez les Égyptiens.
Madame.
Oui, merci.
Pourquoi, madame, on n'étudie jamais l'histoire d'aujourd'hui?
N'ayez pas, c'est une bonne question. Soit quelqu'un veut répondre? Mathilde?
On n'étudie pas l'histoire d'aujourd'hui parce que c'est pas l'histoire.
Et pourquoi c'est pas l'histoire?
Parce que l'histoire, c'est hier. C'est ce qui s'est passé il y a longtemps.
Oui, mais ce qui se passe aujourd'hui, ça sera l'histoire de demain.
On n'a pas besoin de l'étudier puisqu'on l'a vu. C'est dans le journal, la radio.
Oui, mais un jour vos enfants voudront la connaître. Et puis la faire connaître à leur tour à leurs enfants.
Et ainsi de suite.
Bien sûr. C'est à travers la mémoire de chacun de nous que se transmet l'histoire. C'est à travers la mémoire que s'écrit l'histoire.
Mais madame, à quoi ça sert l'histoire?
Pour savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. C'est le passé qui nous éclaire le présent. Et c'est en conservant la mémoire du présent qu'on peut éclairer l'avenir.
C'est assez extraordinaire, hein. Porte de Lampedusa, porte d'Europa, un monument pour les immigrants
décédés et dispersés en mer.
Combien t'as payé pour la traversée?
1700 euros.
1700 euros, t'as payé pour la traversée.
Oui.
Et maintenant, là, t'es content d'être là quand même, non?
Ah oui, hein. Je suis né de nouveau, parce que lorsque on est dans le bateau et je vois
Lampedusa,
oui, qui en sont venus, alors là, je me dis, grâce à Dieu, nous sommes vivants de nouveau. Ah, bien, le trajet, c'est Maroc, hein, Libye, par le désert. Hein. Il y a des circuits
là-bas. C'est très dur, ça, non?
Ah oui. On a vu la mort. La première, c'est parce que le bateau était très plein. Le maximum, 200. Mais nous, il a 410. Comment dirais-je?
Le bateau pouvait contenir 200 et vous
200,
le
maximum. Ah oui, c'est la première, ça. Nous sommes vivants. La deuxième, c'est à cause de la soif et de la faim. Mais lorsqu'on est dans une vie un peu mauvaise ou un peu dure, la dure de ça, c'est moins que la dure de ça.
Immane tragedia dell'immigrazione. A Lampedusa affonda un barcone in fiamme con 500 persone a bordo, 93 i morti accertati, 250 dispersi in mare, tra le vittime donne e bambini. La rabbia del sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, basta, è un orrore continuo, bisogna creare dei corridoi umanitari per chi fugge dalle guerre.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Ventil. Lampedusa, combien de cercueils pour cette fois?
Flight number 2, arriving from New York.
Là, c'est le cimetière des bateaux. C'est le cimetière des bateaux qui font la traversée de la Libye jusqu'ici. Et parce que les bateaux ne font qu'un tour, ils ne font qu'une traversée, ils ne reviennent pas. Alors les voilà, ils sont devant nous, cassés, en tas, entassés, avec les restes, des restes de vêtements, des bouteilles de plastique, quelques objets, et puis surtout ce sont des bateaux qui sont fracassés, généralement bleus, peints en bleu, des bateaux en bois souvent. Il y a aussi des gonflables, des sortes de genre de zodiac là, au-dessus. Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est des bateaux qui valent quand même de l'argent. Imagine, pour un pêcheur tunisien, un bateau comme ça...
Ce bateau-là.
Le bleu, là, le grand bleu, il est magnifique.
Compte 200 personnes dessus, les unes sur les autres.
Ouais.
200 personnes à 1500 euros. Ça te fait 300 000 euros. Mmh. Un bateau comme ça, ça coûte pas plus de 30 000 euros. Ça te fait 280 000 euros dans la poche. Ceux qui fournissent le bateau, fournissent une boussole. Boussole marine, là, ça coûte dans les 100 euros. Un téléphone satellitaire Touraya, 500 dollars, 500, 600 dollars. Donc les frais avec le bateau, en tout et pour tout, ça peut faire entre 40 000 et 50 000 euros. Hmm? Et ça rapporte 300 000 euros. Regarde un peu la marge bénéficiaire et tu comprends.
Et là, ils donnent le bateau, ils trouvent un gars qui sait à peu près naviguer, vaguement naviguer.
Ils lui disent, toi, tu peux y aller sans payer.
On te file la boussole, le GPS.
Voilà.
Et le numéro de téléphone des gardes-côtes italiennes de Lampedusa. Direct.
Voilà.
Et dès que tu es à 40, 50 miles de la côte de la Libye, t'appelles, tu lances un SOS.
Andiamo su, che ora, mentre usciamo, poi vediamo.
On peut partir.
Allons-y, allons-y.
Là, on va démarrer, on va partir à la mer.
Et là, on est avec le commandant
Vincenzo Colella.
Vincenzo Colella. Alors, vous êtes le commandant de cette embarcation?
C'est moi, oui.
D'où viennent les bateaux exactement, vous le savez?
Per lo più, Libia.
Pour la majorité, la grande majorité, ils viennent de Libye.
La Libye.
Est-ce que vous avez un sentiment d'invasion?
Non, des médias.
Non, moi j'ai plutôt l'impression que c'est les médias qui donnent cette impression.
On dit que les pêcheurs du coin retrouvent assez souvent dans leurs filets des cadavres ou des morceaux de cadavres.
Può essere.
Ah, c'est tout à fait possible.
Che sono arrivati qua con
nous, des cadavres. Ça nous est arrivé de voir des pêcheurs rentrer avec dans leurs filets des cadavres.
Vingt-deux mille migrants ont accosté en Italie depuis le début de cette année, ici à Lampedusa, mais aussi bien à Chypre, Malte, en Grèce, en Italie. Ces hommes, ces femmes et ces enfants essayent évidemment de vivre mieux, de venir vivre mieux, parfois avec la mission de venir essayer de travailler, faire la vie et l'argent un peu en Europe, pour envoyer dans le village. On le dit, il faut le répéter, mais il ne faudrait pas que ça suffise de le dire et de le répéter, qu'il faut vraiment s'atteler aux causes de cette malheureuse migration. Non pas que migrer soit en soi quelque chose de contre quoi il faille lutter. L'histoire de l'humanité, elle est faite, évidemment, on le sait bien, de migration. Mais cette migration de la misère, de la pauvreté, de la fuite face à des conditions de vie insupportables. Il faut savoir pourquoi ces conditions de vie sont aussi insupportables et essayer d'y tenter d'y remédier. On voit que l'aide des 15 membres de l'Union internationale qui sont membres du comité d'aide au développement, cette aide a chuté de 7,3% cette année par rapport à 2011. Au moins ça, c'est une indication. Et puis il faut y revenir. Toutes ces obligations faites par le néolibéralisme planétaire, à travers la Banque mondiale, à travers le Fonds monétaire international, les obligations qui sont faites à ces pays africains, en l'occurrence, quant au plan d'ajustement qui les empêche très clairement, de se développer et d'assurer leur, leur souveraineté. Voilà pourquoi ces femmes, ces enfants, ces hommes sont maintenant dans des cercueils à l'aéroport de Lampedusa. C'est pour ces raisons-là. Alors, c'est pas facile de comprendre tout ça, de mettre tout ça bout à bout. Il est beaucoup plus facile de s'indigner, de pleurer, d'accuser le sort et la misère. On était l'an passé en Libye, et on va y retourner dans un de ces camps installé par autant de Kadhafi, qui avait fait des accords, comme d'autres pays d'Afrique du Nord, pour être un peu les tampons, les gardes-chiourmes, retenir cette misère noire. Et en échange commerciaux, en échange financier, Kadhafi avait fait installer de ces centres dans lesquels, aujourd'hui, ces migrants sont très souvent encore enfermés, à l'heure où je vous parle, et où ils font l'objet de pressions, de violences absolument terribles. Des employeurs peu délicats viennent les chercher pour les faire travailler dans des conditions déplorables, ou même sans aucun salaire. C'est des très très mauvais traitements, proches de l'esclavage que ces gens subissent, en attendant la chance très hypothétique d'aller jusque au bord de la mer et de s'en monter dans un bateau qui peut ou ne peut pas arriver jusqu'à Lampedusa. Voilà où nous allons aujourd'hui, à Gariane, une ville au sud de Tripoli, à 80 ou 90 kilomètres au sud de Tripoli, dans ce centre qu'il s'appelle Bourchada. Lampedusa, combien de cercueils pour cette fois? C'est jusqu'à 16 heures, ou presque, c'est la passe suggestion.
Mohamed,
Nambi,
aujourd'hui c'est un grand jour pour toi.
Eh ouais.
Tu vas nous quitter, partir en France.
Mm-hmm. France.
Hein? J'espère que ton voyage va très bien se passer.
Oui, oui.
Mais là-bas, il faudra penser à nous, mon frère.
Oui, je sais.
Le village a fait de grands espoirs sur toi.
Mm-hmm.
Bon voyage.
Ma vie se résume à rien. Le temps passe, il faut que je me prenne en main. Que la famille mange à sa faim. Dans mes poches, que dans nada, hatsa, y'a rien. Mon cerveau torturé pendant tant de nuits. La folie me prie. Réunis femmes, enfants et amis. Leur dit qu'il me fallait quitter cette misère. Donner un sens à ma vie si amère. J'en ai assez de vous voir pleurer. Un par un crevé sans pouvoir me manifester. Je n'en peux plus de m'apitoyer. Je dois bouger, voyager, travailler. Quand j'en aurai assez plein les poches, je reviendrai, la faim m'a guidé. Vendu ce que j'avais tout bradé. Histoire d'avoir de quoi payer mon billet. Je suis parti à la conquête d'Eldorado sans papier,
sans
la clandestinité. Je vais devoir lutter, mais je suis décidé, j'y vais.
Rutso dosso mazidu amre baha. Bismillahirrahmanirrahim. Mugunana sulishi.
Demain je quitterai ce lourd fardeau, guidé par mes idéaux. Charmé par le faux, je partirai pour Eldorado. Eldorado. Eldoclando.
Regardez, ils m'ont battu. Regardez les blessures que j'ai dans le dos.
C'est vrai que les gars, dès qu'ils relèvent leur chemise ou leur t-shirt, c'est pour montrer des blessures partout, quoi.
Ils m'ont arrêté, donc ils ont dit que bon, que je suis un immigré ici, alors que ils n'ont même pas vérifié mon papier. Ils ne savent pas comment est-ce que je suis rentré. Ils n'ont rien vérifié.
Monsieur le journaliste, moi, je vous comprends bien. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens pour rapatrier quelqu'un, si tu n'as pas ces moyens-là, il faut les libérer, non? Du moment où tu n'as pas ces moyens-là, il faut les laisser partir. Nous, on est là. Quand même, un être humain, on ne peut pas le maltraiter comme un animal. Moi, je comprends le rôle d'un journaliste. Nous, on vous demande, faites ce que vous pouvez, passez le message partout dans le monde pour que la souffrance que nous vivons ici, ça s'arrête. Il faut nous libérer. Moi, j'ai dit, même si on me libère ici, on me donne travail, je pars chez moi. On est venu chercher de quoi faire. Il n'y a pas ça ici. Soit tu nous laisses, soit tu nous amènes chez nous.
On est à Gariane, ici.
À 90 km au sud de Tripoli.
Agne Sagar, Bachir Sagar.
Je suis Sagar Bachir Sagar. Je suis le responsable administratif de cette prison.
Vous avez dit une prison ?
C'est précisément un centre pour l'abri des émigrés illégaux à Gariane. On attend donc qu'ils retournent chez eux.
D'où viennent ces migrants ?
De l'Afrique, de différentes nationalités.
Ghana, Niger, Nigeria, Mali, Sahel, Soudan, Tchad.
Ghana, Niger, Nigeria, le Tchad, Côte d'Ivoire, Mali, le Soudan aussi.
Sénégal.
Le Sénégal aussi.
Vous, à l'époque de Kadhafi, vous étiez déjà directeur de ce camp de rétention ?
Il n'a jamais fonctionné, ce bâtiment. Le premier fonctionnement, ça date de 29 décembre 2011.
D'accord. Combien de personnes résident actuellement dans votre camp ?
Presque 1000 clandestins.
D'abord, le soleil à bout portant, il fait 40 degrés. Vous avez là quelques bâtiments de tôles sur lesquels le soleil tape très fort. Et puis, derrière des barreaux, vous voyez des grappes humaines d'hommes noirs, aussi de femmes, vous les entendez, des femmes venues du Nigeria et qui sont échouées dans ce camp de Bourachada, non loin de Gerdane, non loin de Tripoli, qui, on va les rencontrer, ont traversé le Sahara dans des conditions terribles, et puis qui ont échoué là, qui sont internés là, et qui espèrent en sortir. Vous allez voir dans quelles conditions ils vivent, qui espèrent que les ambassadeurs de leur pays réciproque vont venir les voir et entreprendre les démarches pour qu'ils puissent retourner dans leur pays.
Mais les infrastructures qui sont ici, là, on est dans des baraquements en tôle, plus ou moins en dur, plus ou moins équipés, avec toute une barrière qui entoure, elles viennent d'où à l'origine ?
Dès la construction de ce bâtiment, déjà à l'époque Kadhafi, c'était construit pour que ce soit une prison pour les clandestins illégaux. Et c'est une compagnie italienne qui l'a construit.
Ah ! Par les Italiens, au temps de Kadhafi, pour retenir les migrants d'Afrique noire.
L'accord qui était entre l'Europe et Kadhafi, on lui payait mensuellement, je ne sais pas, un demi-million ou un demi-milliard d'euros pour retenir les clandestins. Et donc les Italiens, une compagnie italienne, a construit cette base-là pour contrôler l'arrivée des clandestins en Europe.
Ça faisait partie du chantage que faisait Kadhafi. Donnez-moi de l'argent ou j'ouvre les vannes de tous les immigrés clandestins d'Afrique subsaharienne qui vont foncer vers l'Europe. Et les chiffres qui sont donnés, c'était un chèque de 5 milliards d'euros par an versé par les Européens.
Ça date de quand, ça ?
2005-2006. Après la levée des sanctions européennes. Ça a été négocié entre l'Italie et la Libye parce qu'en fait, à l'époque, le gouvernement italien était sous la pression de la Ligue du Nord qui faisait pression sur le thème de l'immigration illégale. Et donc c'était un gros sujet dans la relation bilatérale italo-libyenne.
C'est à mi-chemin entre le camp de rétention et le camp de réfugiés. Hello.
Moi je parle français.
Ah !
Bonjour.
Je suis sénégalais.
Sénégalais ?
Ouais. Sénégalais.
Ouais.
Et vous êtes enfermé là ?
Oui, je suis enfermé. Depuis le mois de février, je suis là. Ouais.
Et vous êtes enfermé là-dedans ?
Je suis là, oui.
Et pourquoi vous êtes enfermé là, derrière les barreaux ?
Ils nous ont attrapés, bon, tout simplement, on n'a pas une faute de visa. Oui, c'est pour cela qu'ils nous ont mis derrière les barreaux. On est en train de souffrir ici. Vous voyez, il n'y a même pas de l'eau. On ne dort pas. Même le manger, il n'y en a pas. On ne se lave pas. Bon, moi, je suis entré ici au mois de décembre pour chercher de l'argent et aider à nos parents. C'est à cause de la pauvreté. Chez nous, il n'y a rien.
Comment tu t'appelles ? On va se tutoyer.
Je m'appelle Aliou Baldé.
Aliou Baldé.
Oui.
Raconte-nous un peu le voyage pour venir jusqu'ici depuis Dakar.
Bon, moi, je suis passé par Bamako, Mali. Après, Niger. C'est là-bas la frontière entre Niger et la Libye. Je suis entré là-bas. Bon, j'ai fait 2 semaines à Gatroun, à la frontière. Bon, j'ai pris départ, arrivé à Sabha, ici en Libye. J'ai fait 1 mois pour entrer à Tripoli. Ouais. Après, ils m'ont attrapé à Guyane au mois de février.
Tu as payé combien pour venir jusque-là?
Bon, j'ai payé à peine CFA, j'ai payé 500 000 CFA.
Ça fait 1 200 euros. Ouais. Tu as payé à peu près 1 200 euros ouais. À un passeur.
Plusieurs passeurs. Chaque fois, je paye, même si c'est un policier libyen qui m'a trahi ici de Misda à Tripoli. Ouais. J'ai payé 500 dinars. Il m'a sorti une arme, il m'a dit, bon, je suis policier. Il a mangé mon argent et il m'a laissé dans le Sahara. J'ai failli mourir dans le Sahara.
Il a sorti l'arme, il t'a laissé là, il t'a ouais. Pris ton fric, il s'est sauvé. Et donc, t'as plus rien là.
Ouais, je n'ai plus rien à faire. Franchement, ici, c'est de la souffrance qui est là. Ah. C'est pas une prison. Ils disent que c'est une prison de dépestation, mais ici, c'est pas une prison de dépestation. C'est vraiment dangereux. Ouais, il y a des fous là-bas.
Il y a des fous ici.
Il y a des fous ici, on les frappe jusqu'à ce qu'ils sont devenus fous. Ils ne sont pas venus comme
et
ça.
Les femmes?
Bon, les femmes, elles étaient là avec leur mari. Après, on les a ramassées dans leur maison même. On les a tapées à la porte, on les a tout ramassées par là. L'essentiel, leur problème, ils voient tout noir. Si tu es noir, on t'amène ici. Ça, c'est sûr. Il y a des enfants, il y a des vieilles même qui sont là. Tout le monde est là, en train de souffrir. On ne donne pas de bon manger, on ne donne rien. Même l'eau est contaminée. Même l'hôpital, il n'y en a pas. Tout le temps, 24 heures sur 24, on est enfermé. Il n'y a rien.
Mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu veux rentrer à Dakar?
Rentrer. Je vais rentrer à Dakar.
Oui, quel âge tu as?
Moi, j'étais en classe de terminale. Au mois de mai passé, là, j'ai atteint mes 19 ans.
Et qu'est-ce que tu espérais en venant ici?
Bon, je voulais vraiment tenter la chance d'aller en Europe pour pouvoir trouver une belle vie.
Bah oui.
Parce que chez nous, c'est vraiment de la galère. On n'a rien. Moi, je suis seul dans la famille. Je n'avais pas de moyens pour suivre mes études. Je n'avais pas de moyens. Je dis donc, attends, je tente sens pour aller voir l'avenir. Finalement, je me suis rendu par là. Vraiment, je suis en train de souffrir. Je veux rentrer dans mon pays.
Centre de Bourchada, en Libye, au sud de Tripoli. La situation s'est depuis aggravée avec le chaos que connaît aujourd'hui la Libye en proie à toutes sortes de milices qui ont accru leur pouvoir et qui se livrent à toutes sortes de trafics, de business, d'armes, de drogues et de pression et d'exploitation sauvage. De ces migrants qui sont dans un centre comme celui-là, mais qui on ne sait pas très bien quelles sont les autorités auxquelles il faudrait s'adresser. C'est l'OMI, peut-être, l'Office de Migration Internationale. C'est un ministère de l'Intérieur très fantomatique. Ces gens sont véritablement échoués.
Comme Lagos, Nigeria.
Toi, tu viens de Lagos, au Nigeria?
Ça fait 8 ans que je suis en Libye.
Ah bon? Ça fait 8 ans. Alors pourquoi tu es dans cette prison? Parce que c'est quand même une prison. On est en train de vous parler derrière des barreaux, les gars. Hein?
I don't know my offense. I don't know what I do.
Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je ne sais pas quel délit j'ai commis.
Maybe because I'm black. You see the short man going there, sir. He's the one come my house, come and arrest me.
Mais c'est peut-être parce que je suis noir. Par exemple, vous avez vu le petit gars là, avec qui vous parliez tout à l'heure? C'est lui qui est venu m'arrêter.
In my house, in Guéguen.
Moi, j'habitais à Guéguen et il est venu me chercher dans ma maison.
They're still talking about maybe we don't have visa, we don't have, but I have entry.
Ils ont commencé à dire qu'on n'avait pas de visa, qu'on n'avait pas de papier. Mais moi, j'ai les documents parfaitement en règle.
I'm a mechanic.
Je suis mécano.
But I don't know what my offense. I stay in more than 1 month and 15 days now.
Ça fait près d'un mois et demi que je suis ici et je sais toujours pas quel tort j'ai commis.
You see, my wife is here, my daughter. I have wife, I have.
Il y a ma femme et mes enfants qui sont à côté. Toute ma famille est ici en prison.
My family is here. See the condition I'm living here.
Et regardez comment on vit maintenant. On est derrière les barreaux.
But they will tell you another matter. You understand? They will not tell you the truth.
Ouais. Et ici, les gens qui vous ont parlé, ils vous ont pas dit la vérité. Ils sont très mauvais.
These people take their picture because let the whole world know.
Si prenez les photos des gardiens, comme ça le monde entier pourra savoir à quel point ils sont mauvais.
Exactement. Il y a un mort.
Ici dans le camp?
Ici même dans le camp. Ils ont frappé, ils ont monté les gens derrière ici. Ils ont frappé jusqu'à il est devenu mort.
Tu dis qu'il a été tué
devant moi, j'étais à la porte pour échapper, pour partir.
Ils avaient essayé de s'enfuir.
Oui, on les a attrapés. Ils les ont frappés. Depuis 3h du matin, ils les ont attrapés. Jusqu'à 7h du matin.
C'est true.
Ils les ont frappés jusqu'à ce qu'il est décédé. Même il a demandé de l'eau à boire avant de mourir. Ils n'ont pas donné de l'eau à boire.
Et là, il nous montre le gars qui est derrière. On nous montre que c'est lui qui tape.
Celui qui a porté le t-shirt rouge, là. Il est très méchant. Il est méchant même, pire que le mot.
Il fait gaffe, fais attention, il est là. Ils sont très très tendus là, très inquiets.
This is my friend kid.
Ça c'est. Ça c'est le fils de mon copain.
It's my neighbor, you understand?
C'est mon voisin lui là-bas. Et le petit, comme il est tout petit, il arrive à passer entre les barreaux pour aller voir son papa.
Ça c'est très très mignon.
Comment c'est une fois?
Il vient voir son père.
Oui, c'est une prison même, Guantanamo.
Guantanamo. Comment tu t'appelles?
Alpha Diallo. Je suis du Sénégal. Je suis réalisateur de films documentaires.
Comment t'es arrivé là, toi?
Moi, je suis passé par le Sahara pour venir là. J'ai fait 23 jours.
23 jours?
Avec les clandestins qui allaient en Italie, je tournais en fait mon documentaire Sénégal-Italie.
Tu es en train de tourner un documentaire?
Oui, mais...
Tu es pas un vrai clandestin?
Oui, je voulais montrer aux Africains ce qui se passe en fait, la réalité de l'immigration clandestine. Et bon, les gens qui passent du Sénégal passent par Mali, Niger, Libye jusqu'en Italie. On m'a pris. Mais quand même, ils ont pris tous mes matériels, mon argent, ils ont déchiré mes papiers et tout.
Ta caméra est où, toi?
Ils ont ma caméra, mes micros,
piqué.
Tout. Il n'y a rien maintenant.
Et ici, tu t'es fait coincer?
Oui, maintenant, j'ai tout perdu presque. Ici, ça ne va pas.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rentrer au pays?
Rentrer, moi, je suis prêt pour rentrer.
Parce qu'ici, là, même s'il y a le passeport, on te fait prisonnier.
Ouais.
Mais là, il n'y a pas de sens.
Toi, tu viens d'où?
Moi, je viens de Gambie.
Il y a la Guinée-Bissau qui est là.
Guinée-Bissau.
Il y a le Togolais.
Togolais derrière.
Moi, vraiment, je veux rentrer au pays.
Je te jure que nous sommes ici maltraités. Des fois même, on peut se lever matin au soir sans l'eau.
The Nigerians.
Nigeria.
Yes, Nigeria.
Nigeria. Tous du Nigeria.
Yes, I'm spent 7 years in Galean here.
Moi, ça fait 7 ans que je travaille ici.
I'm spent 7 years. I'm working for Galean here. They arrest me since December 13th.
Je t'ai arrêté le 13 décembre dans ma maison, moi et ma femme.
They arrested me and my wife since December 13th.
Le 13 décembre. Ils nous ont emmenés en prison. Après 3 mois en prison, ils nous ont amenés ici.
Non. Il faut dire, les gars sont derrière des barreaux. On est en train de parler avec des hommes captifs derrière des barreaux qui sont dans un hangar de tôle. Il doit faire 35 ou 40. C'est un cagnard infernal. Ils sont au moins 80 là-dedans. Les francophones là-bas en face sont 80. Eux aussi, les anglophones dans les mêmes conditions. C'est infernal. Infernal.
OK, right about now, they said they don't want us in their home country. Help us at the IOM or the UN to please come to our head and take us to our country.
S'ils ne veulent pas de nous dans notre pays, s'il vous plaît, prévenez les Nations Unies, prévenez les organismes internationaux qui, s'il vous plaît, qui nous ramènent chez vous.
Your people died every day. The police come to our rescue.
Moi, regardez, ils m'ont battu. Regardez les blessures que j'ai dans le dos.
C'est vrai que les gars, dès qu'ils relèvent leur chemise ou leur t-shirt, c'est pour montrer des blessures partout, quoi.
Ouais. Regardez les traces qu'on a sur les visages. On est traités comme des animaux. C'est pas juste.
There's no good living here.
La vie est terrible ici. C'est la poussière.
Living like a refugee, it's not easy.
Yeah.
You see, I just took all the problems, the suffering of the people, and then make a song of it.
You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land. You will be confronted by strange dialect. You will be fed with unusual diet. You got to sleep in a tarpaulin house, which is so hot. You got to sleep on a tarpaulin mat, which is so cold. Oh, we on time.
Living like a refugee,
it's
not easy.
It's really not easy.
Living like a refugee,
it's not easy.
It's really not
ici dans ce camp de Bourachada, non loin de Gariana, au sud, 80-90 km au sud de Tripoli. Ce camp plein soleil, ces baraques de tôle qui enferment derrière des barreaux des hommes, des Africains noirs, de l'Afrique noire, et des femmes également du Nigeria, et qui espèrent repartir chez eux, qui sont là détenus dans des conditions tout à fait arbitraires. Ceux qui sont là sont totalement désappointés. Non seulement les traitements qu'ils subissent sont terribles, violence physique, c'est pas seulement des témoignages. On est arrivé là sans avoir prévenu. Il ne faut pas croire que cette visite était organisée. Violence physique visible. Les femmes, les enfants, en bas âge, les petits-enfants, on les a vus. Les malades, on s'est douté avoir le physique de certains des détenus qu'effectivement, ils étaient en mauvais état. Et le comble, c'est que le gardien lui-même, enfin le responsable ou celui qui se présente comme tel, Sagar Bachir Sagar, dit « Moi, je vais les lâcher ». C'était la menace que faisait Kadhafi à l'Europe. Si vous continuez, moi je vous lâche tous ces immigrés vers l'Europe. Eh bien, c'est ce qu'il dit. Il dit « Si on n'a pas de soutien, si on n'a pas de fonds, si on n'a pas de moyens de nourrir et de permettre à ces gens de boire, tout simplement, eh bien, je les libérerai au moment du Ramadan.
15 days before Ramadan. 15 jours avant le Ramadan.
15 jours avant le Ramadan, moi, j'ouvre les portes.
Yeah. I'm gonna take them from here.
Et je vais les prendre d'ici.
Yeah. To the Prime Minister in Tripoli.
Jusqu'au bureau du Premier ministre à Tripoli.
Or I bought them on a ship, I send them to Europe.
Ou je les mets dans un bateau pour les envoyer sur l'Europe.
I have two choices.
J'ai que deux choix.
Ils souffrent beaucoup, les gars, là, hein?
Yeah, I know. They're complaining a lot.
Et oui, ils se plaignent beaucoup.
And d'ailleurs, this is the truth.
Et c'est la vérité, ce qu'ils disent.
C'est la vérité, ce qu'ils disent. Quand ils disent qu'ils sont frappés, par exemple, c'est la vérité?
Yeah.
Oui.
Yes, it's true, but when he tried to run away.
Oui, quand ils ont essayé de s'enfuir.
Oui, they get fed up.
Ils en ont marre, ils deviennent fous, ici.
Ils deviennent fous, les gars deviennent fous.
Yes.
Donc vous êtes obligés de
taper dessus. I excuse them.
Moi, je les excuse, presque.
Ah, vous les comprenez?
Yeah, mais, I understand, but I have nothing. I have no choice.
Mais j'ai pas de choix.
Mais qui tape dessus?
Anybody. If you make a mistake, for example, yesterday, my friend tried to give him a breakfast.
Par exemple, hier, un de mes amis a été apporté leur petit déjeuner.
He took a bar of iron.
Ils ont pris une barre de métal.
He tried to hit him in the head, so he brought his hand like this.
Ils ont essayé de le taper sur la tête et lui, il s'est protégé avec sa main, sinon ils lui ont brisé la main.
You have to protect yourself.
Il faut bien se protéger après.
Donc il faut se défendre, donc vous tapez dessus.
Yeah.
Ok. Donc c'est très brutal, quoi, c'est là.
I tell you the truth, don't care.
Je vous dis, je vais pas me cacher, je vous dis la vérité.
Ok.
I tell you the truth, don't care. I tell you what they do and what they do. Yes. What I need, what they need.
Moi je vous dis ce qu'ils font et ce qu'on fait. Ce dont ils ont besoin et ce dont nous on a besoin.
Yeah, they are human beings.
Ce sont des êtres humains.
They need food.
Ils ont besoin de nourriture.
They need water. They need medicines.
Des médicaments.
They need smoking.
Même à fumer.
Now we are in summer. The temperature is here more than 49 degrees centigrade.
Et ici, l'été, on est en été, les températures vont continuer à monter jusqu'à dépasser les 49 degrés.
Yeah, and you see the weather here is it's iron.
Et ils sont dans des baraquements en métal.
So you cannot imagine the temperature inside.
Vous imaginez la température à l'intérieur.
Without air conditions.
Sans air conditionné.
And you see it's like a desert.
Et tout autour, c'est le désert. C'est vrai qu'il n'y a pas un pet d'ombre, il n'y a pas un arbre. On est sur des contreforts rocailleux. Et c'est du sable à perte de vue.
As everybody knows, now what's next will be out. I found maybe 4 snakes here in that block.
Et en plus, comme on est dans le désert, il y a des serpents. Et là, dans ce bloc-ci, j'ai trouvé 4 serpents.
Yeah, they are dangerous.
Et des serpents très dangereux. J'en ai attrapé 4, des serpents venimeux. Ça va pas du tout. Ça va pas ici. On souffre, on veut sortir d'ici.
This place is not okay for us. We want to be out of here. We are suffering. No good food, no good water, no electricity, nothing.
Il y a pas d'électricité, pas de bonne eau, pas de bonne nourriture. Nous, on veut juste quitter cet endroit où on souffre trop. On veut partir d'ici.
If they want us to go back to our country,
we are. Ils nous laissent repartir dans le pays.
We come from Nigeria.
On vient du Nigeria.
Please, we are all from Nigeria. Please, we want to be out of here.
Can I ask you one question? Why Libyan people maltreat foreigners like this? Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi les Libyens nous traitent comme ça? Ils nous maltraitent comme si on était des animaux. Ils nous traitent comme si on était des esclaves, comme si on était des animaux.
Comment vous êtes arrivés ici?
On sait très bien qu'on est venu illégalement. On a traversé le désert pour venir ici.
But even if we come this country illegally, we don't need to be treated as if we are animals. We are
not. Pas une raison pour nous traiter comme des animaux.
We want to go to Nigeria. We want to go home.
Nous on veut retourner au Nigeria. On veut retourner à la maison. On souffre trop ici.
We are suffering here. When? 1 year now.
Ça fait un an que je suis en Libye.
So our property is in Tripoli. We didn't take anything. We are here. We are here wearing one cloth.
Toutes nos affaires sont restées à Tripoli. On a que ce qu'on porte sur nous.
So now we want to go back home, sir. Please help us.
C'est pour ça qu'on veut retourner à la maison, s'il vous plaît. Et tous les hommes sont là-bas enfermés.
But I think there is no law.
Ici, il n'y a pas de loi.
If there is law, I think this man will not be treating people like this.
Parce que s'il y avait une loi dans ce pays, on ne serait pas traité aussi mal. On est fatigué d'être là.
En attendant, les femmes travaillent. Elles font la lessive, elles font de la couture.
On te moigne de l'amour de l'aimant de l'otalaï. Où t'as beau cocona yo, yo salisse colala. L'amour cana no yotala, l'engue mon yébimi. T'en as libo sona yo. E bale ton imbisi, balo la misora sima, zamba e ton di banyamana bandeke, ma bele oyoyo telemi, e ton di diamana wolu, moto moindo. Moino la muka elema peyo yebau toko makolia
soso babo malibela
toko makolia mama
bisi baka malakata
toko makolia
yama ya poso ya tete
bako mako kabila yo
Merci et courage à ceux qui sont dans le centre de Bourchada, Gariane, au sud de Tripoli, donc, et à ceux de Lampedusa. C'était Lampedusa, combien de cercueils pour cette fois, avec Guy Vanti, le Francesco Giorgini, Patrick Mzadeh. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur le site là-bas.org. Et puis, il y a la page Facebook de Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélan et Élodie Royer. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer. Préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis. Au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas, si j'y suis. Tout de suite, je vous laisse avec Hervé Pochon avec son temps de... Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Alors, donc moi, mon nom, c'est Jean-Pierre Ferny. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. On va se retrouver tous les lundis. Aujourd'hui, il fait beau.
Bonjour à tous et bienvenue à l'Université Paris Diderot pour la rentrée des classes pour ce DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires. Et le cours de français ou de littérature est mené par professeur Jean-Pierre Ferrini.
Indépendamment de ça, c'est vrai que vous pourriez peut-être, je sais pas, on pourrait faire comme ça spontanément un petit tour de table, mais...
Donc moi je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans, j'ai arrêté les études à 18 ans passés je crois, j'ai eu un parcours un peu atypique, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait une première économique et sociale, ensuite j'ai fait une première littéraire et ensuite une première sanitaire et sociale pour finalement décider que j'avais envie de travailler. Et j'ai travaillé donc dans la lingerie de luxe, ensuite à la CPM comme agent administratif et actuellement je suis gestionnaire administrative et financière à l'Agence nationale de la recherche. Ça me plaît moyen.
Je me demandais ce que vous voulez faire après avoir passé un diplôme ici.
Écrire. Non, peut-être du journalisme.
Bonjour, je m'appelle Rachid, j'ai 27 ans, j'ai arrêté les cours il y a 10 ans après avoir fait 2 collèges et 3 ou 4 lycées. Et du coup, je suis là entre-temps, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait de la plonge, j'ai fait un peu tous les petits boulots imaginables, mais j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre également. Et là, je suis là et après, j'aimerais bien faire des études de psychologie.
Et vous imaginez que ça va être combien d'années d'études, là ?
Là, c'est 5 ans. On verra si je peux financer pendant 5 ans ces études-là.
Parce que là, vous faites quoi pour financer ces études ?
Là, je travaille dans un restaurant haut de gamme. Un restaurant pas haut de gamme, un fast-food haut de gamme. Très sympa, là je prends des notes sur les différentes recettes. Voilà.
Moi je m'appelle Chani, j'ai 20 ans. J'ai eu un parcours assez atypique aussi. En fait, j'étais un petit peu intéressée au début par l'hôtellerie-restauration. Au final, j'ai fait un BEP qui m'a pas intéressée du tout. Puis une carrière sanitaire sociale. Puis au final, je me suis arrêtée pendant un long moment. J'ai essayé des associations comme ça pour essayer de trouver un projet professionnel qui n'aboutissait à rien. Et au final, après de longues années de recherche vaine, j'ai fini par découvrir le DAEU et je me suis dit, c'est peut-être ta chance de retourner vers les études vu que tu avais abandonné il y a longtemps. Et voilà. Donc je me suis mis dans le littéraire parce que personnellement, je ne me vois pas être dans les maths, ça ne m'intéresse absolument pas. Et je m'intéresse surtout par tout ce qui est psychologie, philosophie et un petit peu à les langues étrangères. Donc.
On peut continuer, mais je veux pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là l'année dernière, c'est-à-dire qu'on passait leur vous l'avez passé l'année dernière. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce que une année, ça va être quand même assez dense. Et c'est vrai que j'ai commencé déjà un petit peu à vous le dire, mais certains, sans doute, je sais, le disent pas ou en tout cas, mais il y a des personnes qui ont déjà fait un chemin en tant que lecteur. Vers les textes, alors pas nécessairement ni Molière, ni Proust, ni Verlaine, mais il y a quand même un chemin. Hein. Il faut quand même les atteindre, les textes. Hein. Et ça, on va travailler dans ce sens-là. Et je pense, encore une fois, je le répéterai souvent, hein, c'est pas que le fait d'être à l'école. Alors, c'est vrai que Molière, tout de suite, c'est l'école, quoi, mais il va falloir essayer un peu de désenclaver Molière de cette espèce d'image scolaire qu'on en fait. Hein.
Je vous ai une question. Quel est le taux de réussite à la fin au DAE?
L'année dernière, il était assez bon. Mais je ne veux pas dire de bêtises, mais Valérie Guiraudon vous le dirait sans doute mieux, mais je crois que c'est 50%.
Ouais. Et vous en avez beaucoup qui abandonnent en cours de route?
Oui. C'est pas facile. Parce que on a nécessairement une représentation, une idée du DAE. Donc on se dit, ouais, chouette, je vais m'inscrire au DAE. Et puis, on peut se rendre compte, au fil des séances, au fil des semaines, des premières semaines, que je pensais pas que c'était ça.
Et puis, ça peut paraître, je vous réponds, hein, ça peut paraître au premier abord, ah oui, chouette, quatre matières, c'est beaucoup plus léger que le bac, une option langue, littérature, enfin français, et puis deux options qu'on peut choisir, on peut adapter. Apparemment, ça paraît comme ça, plus, disons, une version plus allégée que le baccalauréat classique. Mais on se rend compte très vite que ça nécessite quand même pas mal d'investissements personnels, plus de lecture, hein, comme je viens de vous le dire, mais aussi une certaine maturité par rapport à la lecture des textes. Donc finalement, c'est du travail. Donc c'est pas si simple, et certains peuvent se décourager, j'espère le moins possible, bien sûr. Hein, mais bon, l'année est longue. Hein. La tente pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Merci, monsieur le professeur.
France Inter, partenaire du festival Les Un Rock. Du 6 au 12 novembre, en tournée dans toute la France. Les révélations et confirmations les plus éclatantes de 2013 avec Laura Mvula, London Grammar, Major Lazer, Ostra, Suns, Suède, Aluna George, Valérie June et bien d'autres. Le festival Les Un Rock à Paris, Tourcoing, Caen, Nantes, Bordeaux, Nancy et Toulouse. Renseignements sur franceinter.fr.
Bonjour, c'est Jacques Vendroux, Radio France, partenaire de Plus de Vie du 1er au 31 octobre. Le Variété Club de France disputera un match à foie en Ariège le 16 octobre à 19h à l'initiative de Fabien Barthès. Joueront notamment Blanc, Rocheteau, Deschamps, Puel, Giresse, Comboiré, Pires. Ils affronteront l'équipe de Géodis. La recette sera reversée à Plus de Vie et à Urma, parrainée par Laurent Blanc. Rejoignez-nous le 16 octobre à 19h au stade municipal de Foix.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Après le drame de Lampedusa, François Hollande va proposer une politique sur l'accueil des migrants étrangers dans l'Union européenne. Ça sera fait dans les prochains jours, dit aujourd'hui le chef de l'État dans une interview au Nouvel Observateur. Cette politique s'articulera autour du triptyque prévention, solidarité et protection. L'Union européenne ne peut tolérer, dit-il, de voir au large de ses côtes des gens mourir dans des conditions épouvantables pour fuir la misère ou les guerres. Ce matin, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, et Enrico Letta, le premier ministre italien, se sont rendus sur l'île de Lampedusa. Ils ont été accueillis par des huées des habitants qui réclament à Rome et à Bruxelles une politique d'accueil plus cohérente et la solidarité des 28. Le débat sur la réforme des retraites va reprendre à l'Assemblée, mais pour marquer le coup, les députés EES de la majorité sont arrivés en retard à la séance de cet après-midi. Elles ont été applaudies par leurs homologues masculins de gauche. Les élus de droite, eux, ont brièvement quitté l'hémicycle. Il s'agissait pour ces dames de protester contre l'insulte sexiste d'un député du groupe UMP la veille. Hier soir, lors de son intervention, Véronique Massonneau, la députée verte, a été interrompue par un député qui imitait la poule. Une semaine maintenant que les fonctionnaires américains sont au chômage technique pour cause de blocage budgétaire, Barack Obama doit recevoir aujourd'hui une délégation d'élus démocrates pour discuter des moyens de sortir de l'impasse politique. Il en fera de même dans les jours qui viennent avec les républicains. La bourse de New York n'a pas réagi à cette annonce. En revanche, elle a réagi à l'arrivée future de Janet Yellen à la tête de la Banque fédérale américaine. C'est la première fois qu'une femme va diriger la Fed. Du coup, Wall Street a ouvert en hausse. Impressionnante par son combat et sa modestie, Malala, que vous avez peut-être entendu aujourd'hui sur France Inter, affirme qu'elle ne mérite pas de remporter le prix Nobel de la paix. La jeune pakistanaise de 16 ans qui milite pour le droit à l'éducation des jeunes filles dans son pays fait partie des favoris pourtant pour le Nobel qui sera décerné vendredi. Beaucoup de gens méritent ce prix, dit aujourd'hui Malala. Je pense que je peux en faire davantage. Selon moi, je n'ai pas accompli tant de choses que ça. Et pourtant, Malala a quand même survécu à une attaque ciblée des talibans qui lui ont tiré une balle dans la tête. C'était il y a tout juste un an, le 9 octobre 2012, dans la vallée de Swat. En France, les abattoirs GAD SAS seront fixés finalement sur leur sort vendredi. La direction a présenté aujourd'hui au tribunal de commerce de Rennes son plan de continuation. Plan qui prévoit donc la fermeture des abattoirs de Lampol-Guimiliau dans le Finistère, de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique et le siège du groupe près de Morlaix. 900 postes donc supprimés, mais cela permettrait aussi de recentrer les activités sur le site de Josselin, dans le Morbihan. Vous écoutez France Inter, il est 16h.
Vendredi à 21h,
Hello.
Agnès Obel en concert,
yeah.
sur France Inter.
Je suis fière de vous faire découvrir Eventime, mon nouvel album.
Une soirée présentée par Laurence Pierre.
Retrouvons-nous en direct du studio 105 pour ce concert exceptionnel en avant-première de sa tournée française. La puissance magnétique de la musicienne et chanteuse Agnès Obel.
Agnès Obel en concert.
En direct du studio 105 de Radio France.
Un événement à suivre sur France Inter.
Vendredi.
À partir de 21h.
Come on.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillet. On vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Alors, bonjour, bonjour. Il a déjà commencé tout seul. Il dit que c'est pas, mais c'est pas ce qu'il préfère. Ah, Michel Plasson.
C'est de mon âge.
Je balance. J'ai dit, c'est très en place le générique, c'est vrai. C'est Claudio Abbado qui dirige. Je dis, j'aime pas ce qui est en place. Ah oui, mais vous avez quand même dit, c'est drôlement bien joué avant.
Oui,
alors,
avant.
Ah bah,
oui.
C'est contradictoire.
J'ai une grande admiration pour Abbado.
Ouais, Abbado, oui. Michel Plasson, donc, grand chef d'orchestre. Merci d'être avec nous. Vous revenez du Japon.
Oui, j'ai passé un mois au Japon, pays vertueux. Oui. Qui respectent les autres, qui aiment la musique, où le vol n'existe pas.
Il paraît.
Mais... Alors, évidemment, on a l'impression d'être différent.
On peut laisser son sac, les dames laissent leur sac aux terrasses, oui. Des cafés, et puis elles peuvent aller s'absenter un petit moment.
Tandis
et puis...
qu'ici, en faisant la queue pour avoir un noir ou tout ça, elles n'ont plus rien.
Ben, oui, il y a une petite déprime qui fait des japonaises. Mais restons très positifs avec ce Japon qui fleure bon la musique, hein, parce que vous êtes aussi allé en Chine, vous nous avez ramené un très beau Requiem de la Terre, on va en parler tout à l'heure, et donc la Chine aussi a un désir de musique, et le Japon, ça fait longtemps déjà.
Le monde a un besoin de musique.
A besoin, mais le désir est plus fort en Asie, oui, on a l'impression en ce moment.
Parce que devant les montagnes de laideur qui tombent sur la planète, de vacarme, maintenant c'est la musique, c'est le vacarme, c'est vite et vacarme, c'est ça. Et même les compositeurs les plus vacarmeux sont les plus connus, n'est-ce pas?
Oui,
à tort ou à raison. Vous savez comment appelait Berlioz, l'auteur du petit morceau que vous venez de passer, le gros homme gay?
Ah ben oui,
il n'y avait pas du tout.
Il parlait de Rossini, donc gros homme. Ben, il était gros, il était gay, puis il était gourmand aussi. Bien voilà un autre gros homme
critique,
gay.
C'était critique.
Oui, je sais, mais on s'en moque.
Non, pas moi.
On n'écoute pas les critiques. Et puis ça c'est vrai. Et puis voici un autre gros homme gay, c'est Emmanuel Chabrier.
Ah, génial.